Alors, ce matin, on ouvre la Bible dans l'Ancien Testament, donc dans le livre des Rois au chapitre 11. Donc, un roi au chapitre 11, c'est la page 245 dans ces Bibles blanches comme ça. Un roi au chapitre 11, page 245. L'histoire biblique jusque-là, de Genèse jusqu'à un roi au chapitre 10, elle nous a conduit vraiment vers des sommets maintenant. Il y a eu des embûches sur la route, il y a eu des hauts et des bas, mais vraiment, quand on arrive à la fin de 1 Roi chapitre 10, on est époustouflé. Il y a Salomon qui est en train de régner. Le royaume d'Israël, donc le territoire d'Israël, est étendu comme jamais. Les nations sont soumises à Salomon. Il y a de l'or et de l'argent partout dans les rues, même au point que ça devient presque vulgaire de parler de ça, tellement il y en a. Et surtout, les deux grands fils conducteurs du récit biblique jusqu'à maintenant semblent en train de se réaliser. Et ces deux fils, c'est premièrement la promesse que Dieu a faite à Abraham d'être dans une terre promise, dans la terre d'Israël. Donc ils sont maintenant dans la terre promise. Et il y a une grande descendance, il y a une grande nation. Vous vous rappelez d'Abraham avec sa femme qui était stérile et ça semblait impossible à imaginer même. Mais voilà! Dans 1 Roi, chapitre 1 jusqu'à 10, on voit cette réalisation-là. Ils sont dans la terre, une grande descendance, ils sont bénis de façon immesurable. Ceux qui maudissent Israël sont maudits, donc les ennemis sont repoussés. Et ceux qui bénissent Israël, par exemple, vous rappelez la reine de Saba qui vient voir, elle est bénie, comme Dieu l'avait dit à Abraham et à sa descendance. Donc on dirait que voilà, ça y est, on touche du doigt la réalité des promesses de Dieu. Et puis le deuxième fils, c'est une deuxième promesse que Dieu avait faite un peu plus tard qu'Abraham, mais à David, le papa de Salomon. Il avait dit à David qu'un fils, un de ses fils, un fils de David, régnerait. Toujours, il y aurait un fils sur le trône. Et là, on voit Salomon, ben, c'est un bon fils. Il n'est pas comme Absalom ou Amon. Un fils qui a demandé à Dieu la sagesse pour régner, qui a cherché à être à l'écoute de Dieu. Et donc, conformément à la promesse, le règne de Salomon est tel qu'il n'y a pas eu de roi aussi glorieux que lui sur toute la terre. Alors là aussi, on se dit, ça y est, on y est. Dieu, enfin, a donné le roi promis, le roi qu'il avait choisi. Est-ce qu'on est en train d'assister à la réalisation entière, finale, des promesses de Dieu? Est-ce Salomon le Messie? Vous vous doutez un peu que comme il reste encore pas mal de pages à la Bible, on n'est pas tout à fait au bout de l'histoire. Et on va lire maintenant donc 1 Roi, chapitre 11, versets 1 jusqu'à 13. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines, et ses femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. L'Éternel dit alors à Salomon, « Puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas respecté mon alliance ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils. Je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » On va s'arrêter là pour la lecture de ce matin, mais c'est l'essentiel de ce qu'on trouve dans le chapitre 11. Et il y a trois choses que je voudrais partager avec vous. D'abord, le danger d'un cœur détourné. La certitude de la parole donnée, on verra ça un peu plus loin dans le chapitre. Et la confiance dans une espérance affirmée. Le danger d'un cœur détourné, la certitude de la parole donnée et la confiance dans une espérance affirmée. Vous avez vu le problème de Salomon, c'est pas les richesses, c'est pas la sagesse, c'est pas la renommée, c'est pas le succès, c'est pas tout ça qui lui a fait perdre la tête. Ben, non, en fait, c'est deux choses. D'abord que Salomon n'a pas tenu compte, au fur et à mesure de sa vie, des recommandations de Dieu. Dieu avait dit, il ne faut pas que le roi ait de trop nombreuses femmes. Vous trouvez ça dans Deutéronome, au chapitre 7, un peu avant ce que Paul nous a lu. Et en plus de cela, il ne faudrait pas que ce soit des femmes qui adorent des idoles, des femmes des autres nations cananéennes aux alentours. Alors le verset 2 résume la situation. Dieu avait dit, vous n'irez pas avec elles, elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. En fait, dans la tête de Dieu, quand il dit ce commandement, il n'y a pas de doute. Quand il dit, ben, certainement, ça va arriver, tu vois, comme s'il était à peu près sûr. C'est tout à fait certain qu'une telle situation, une telle cause conduira aux effets que l'on voit ici dans le chapitre 11. Salomon a un problème avec son cœur, pas avec ses richesses, pas avec son succès, pas avec sa renommée. Le problème de Salomon, c'est son cœur. Regardez au verset 1. Salomon aima beaucoup de femmes. Au verset 2, Salomon s'attacha par amour aux nations païennes et non à Dieu. Au verset 3, les femmes païennes détournèrent pas son argent, son cœur. Aussi au verset 4. Du coup, Salomon, sur la fin de sa vie, ne s'est plus attaché sans réserve au Seigneur. Et verset 6. Il ne l'a pas suivi pleinement. Il a détourné, verset 9, son cœur de Dieu. On pourrait être un peu mépris dans notre conception à nous, le cœur, selon la Bible, c'est pas simplement le centre des affections, des émotions. C'est pas juste que ces femmes étaient suffisamment jolies ou je ne sais quoi pour détourner Salomon. Le cœur dont il est question, en fait, nous, on utiliserait plutôt l'expression les tripes ou peut-être notre âme. C'est ce qui fait tout notre être intérieur. C'est ce qui est le centre non seulement de nos affections, de nos émotions, mais aussi de notre volonté. C'est là où on décide les choses. C'est le centre de nos raisonnements. Et dans la Bible, la tête, elle est dans le cœur. C'est là où aussi on réfléchit. C'est une sorte de grand mélange de toutes les informations qu'on dispose. Et c'est là que les décisions se prennent. C'est là où tout se joue dans notre vie. C'est le moteur, c'est ce qui nous fait avancer. Et le problème pour Salomon, c'est que son cœur a dérivé. Il s'est laissé détourner du vrai Dieu vers un culte rendu aux idoles, aux faux dieux. Et voyez, c'est un danger caché dans un premier temps. C'est comme une graine qu'on sème dans une terre. Quand elle est enfouie sous la terre, elle est invisible, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas déjà active. En fait, si vous avez déjà fait l'expérience à l'école primaire, vous avez mis un haricot dans un coton, vous avez un peu arrosé, et avant même que vous puissiez voir la première feuille verte émerger, il y avait une petite racine qui a commencé à sortir de la graine et à puiser toutes les ressources qui étaient disponibles. Une graine semée sous terre est invisible pendant un bon moment, et avant qu'on en aperçoive une feuille, elle a déjà tissé un bon réseau de racines. Et bien sûr, les mauvaises herbes, ce sont les pires parmi celles-là. Elles descendent profondément, leur réseau de racines est très, très développé. C'est difficile à retirer. Pour essayer de comprendre encore ce qui se passe ici, peut-être vous avez vu le film Inception, avec Leonardo DiCaprio, entre autres. C'est l'histoire d'un homme qui a fait des recherches, qui a réussi à mettre au point un système pour planter des idées à l'intérieur du cerveau, de l'esprit de personnes qui sont dans un sommeil. Et voilà qu'une fois que cette idée est plantée, on ne peut plus la retirer dans le film en tout cas. Et elle produit plus tard, quand la personne se réveille, l'effet qui était escompté. Le problème avec Salomon, c'est que ce n'était pas visible tout de suite que son cœur s'est laissé attirer. C'était un danger caché et un danger à la progression subtile. Ce n'était pas du jour au lendemain. Et on voit ici, c'est plutôt sur le soir de sa vie que Salomon a définitivement basculé. Vous voyez, au début du chapitre, on voit les femmes ont détourné son cœur, mais finalement, lui-même a détourné son cœur. Par une succession de petits choix, de compromis. Lorsqu'on force notre conscience à accepter certaines choses qu'on ne devrait pas, on est souvent champion pour endormir notre conscience avec toutes sortes d'excuses. Paul reconnaît cette réalité aussi dans les chrétiens et l'Église, dans la Nouvelle Alliance. Au chapitre 1 de Timothée, chapitre 5 de 1 Timothée, il dit ceci, « Les péchés de certains hommes sont évidents avant même qu'on les juge, mais chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. De même, les belles œuvres sont évidentes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Pendant un temps, ça peut être caché, mais la progression subtile va amener à révéler les choses. » C'est un peu comme ce qui s'use dans nos voitures, par exemple les freins, ou les pneus. C'est tellement imperceptible que à chaque fois qu'on fait quelques kilomètres, en fait, nos pneus s'usent, nos freins s'usent, mais on ne remarque pas la différence entre le pneu neuf et au bout de quelques mois. Ils perdent leur efficacité petit à petit, ils perdent de la matière. Et du coup, c'est notre responsabilité, votre responsabilité en tant qu'automobiliste, n'est-ce pas, de vérifier régulièrement où est-ce qu'on en est dans le jeu de plaquettes, où est-ce qu'on en est dans l'usure des pneus. Parce que sans qu'on s'en rende compte, il s'use et un jour, le voyant s'allume. Salomon est devenu âgé. Peut-être il n'a pas bien régulièrement vérifié les choses et son cœur est parti à la dérive. Il y a quelques personnes âgées parmi nous. Je voudrais vous encourager. Le combat n'est pas fini. Vous aussi, tenez ferme. Parce que ce n'est pas que sur la fin de la vie, tout va bien. Il y a encore des luttes, il y a encore des ennemis qui sont là. Le diable n'en a pas fini avec nous. Mais nous avons Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous pouvons tenir ferme. Et ceux qui ont poussé un ouf de soulagement en se disant, ben, c'est pas nous. Ben, jeune homme, jeune femme, le combat est déjà engagé. L'usure a déjà commencé. Le caractère naturel du cœur, c'est de dériver. Le processus de détournement est déjà enclenché d'une certaine manière parce que on est dans un monde marqué par le péché. Soyons vigilants. Et finalement, que l'on soit vieux ou jeune, encourageons-nous les uns les autres à rester attachés de tout notre cœur au Seigneur. Ce n'est pas qu'une situation d'il y a 1000 ans avant Jésus-Christ. Jésus l'a dit. En effet, c'est de l'intérieur. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Attention avec les années de ne pas dévier, de ne pas s'installer dans des compromis. Les choix que nous faisons, les choses que nous désirons, elles sont importantes, elles comptent. Et alors c'est bon de demander parfois, peut-être à un frère, une sœur de confiance, mûre dans la foi. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses? Donne-moi un retour sur ma vie. Salomon, à la fin de sa vie, construit quelques chapelles dédiées à Moloch, à Kemosh, à l'entrée de Jérusalem. Mais avant qu'on ait vu la première chapelle, la pensée était déjà dans son cœur. Vous savez, suprêmement, c'est Jésus, le Fils de Dieu incarné, qui est celui qui a droit de nous regarder droit dans les yeux, droit dans l'âme, de nous demander de nous examiner nous-mêmes, avec insistance même parfois, régulièrement. Et toi, m'aimes-tu? Salomon s'est détourné. Et Dieu ne le laisse pas, il ne l'abandonne pas totalement à lui-même. C'est comme ça. Un père qui aime ses enfants, il reprend ses enfants. Et Salomon, voyez ça au verset 11, entend la parole de Dieu lui être adressée. C'est la deuxième partie, la certitude de la parole donnée. En conséquence de ses choix, il aura des opposants. Son royaume ne tiendra pas dans toute sa gloire. Pour le moment, ce que Dieu dit n'est rien de nouveau. Il ne fait qu'appliquer le contrat d'alliance qu'il a lui-même établi avec David, le père de Salomon. Vous vous rappelez peut-être 2 Samuel 7, Dieu fait cette promesse à David, « Je serai pour ton fils un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Ce que Dieu dit, c'est que si David et ses fils, après lui, marchent de façon intègre devant Dieu, la royauté sera assurée et forte. Dieu va pourvoir à tout cela. Sinon, Dieu châtiera avec le bâton des hommes. Première partie de sa parole. Et on voit dans la suite du récit que 3 ennemis sont suscités par Dieu. Ils ne pourront rien contre Salomon de son vivant, comme vient de le dire Dieu, mais ils auront un impact sur le royaume juste après lui. Voyez au verset 14, d'abord c'est Hadad, l'Édomite, membre de la famille royale d'Édom qui est mentionné. On va pas trop s'arrêter sur son histoire. Mais c'est juste une illustration que quand Dieu dit quelque chose, juste derrière, ça arrive. Et puis au verset 23, c'est Rezon qui devient roi de Syrie et d'Aram, qui est mentionné comme un deuxième ennemi suscité par Dieu. Et enfin au verset 26, Jéroboam, le fils de Nébat. Vous voyez, Dieu dit une parole et sa parole est conforme à l'histoire. Ou plutôt, en fait, on devrait dire que l'histoire se conforme toujours à la parole que Dieu a dite, que Dieu a prononcée. En fait, depuis qu'il y a de l'histoire, depuis que le monde est monde, ça marche comme ça. Dieu a dit à partir de rien et tout est venu à l'existence par sa parole. Dans les ténèbres, il a crié et sa parole a produit la lumière. Et la terre, et la mer, et le ciel, et les oiseaux, et les êtres humains. La même chose, dans le cours de l'histoire, Dieu parle, et l'histoire se conforme à la volonté de Dieu. Dieu règne souverainement sur tous les événements de la vie. Et ce n'est pas juste général dans le monde, ça veut dire nous, puisque nous sommes dans l'histoire des hommes, l'histoire de ce monde. Dieu règne souverainement sur tous les événements de ta vie. Ça peut faire un peu peur, mais en même temps, puisque c'est un Dieu qui est bon, il y a des raisons d'espérer. Vous verrez ça encore à la fin du chapitre. Dieu, en tout cas, a toujours une intention. Et même si les journaux télé ou radio ne le reconnaissent pas, ils ne parlent jamais de ça. Il est arrivé un ouragan, il est arrivé ceci, tel président a pris telle décision, etc. Tout ça, c'est Dieu qui contrôle. Et vous voyez ça encore, parce qu'on va regarder un peu comment l'auteur développe un peu plus l'histoire avec Jéroboam, qui va être le centre d'attention un peu des chapitres suivants. Je vais faire assez rapide, mais si vous lisez de côté, en fait, du verset 26, à partir du verset 26 jusqu'à 30-31, il y a cette fameuse histoire de Jéroboam qui rencontre un prophète envoyé par Dieu. Donc, Jéroboam, c'est un membre de la tribu d'Éphraïm, donc un des descendants d'Israël, et il a tout pour réussir, ce Jéroboam. Il est fort, il est discipliné, il a une autorité naturelle, et donc Salomon le remarque, et il en fait un ministre ou un préfet, si vous voulez. Ça sent vraiment un gars qui a tout pour réussir. Il lui confie l'autorité sur toute la maison de Joseph. Vous voyez ça au verset 28. Et voilà que Jéroboam part pour des congés, pour se rendre dans une ville en dehors de Jérusalem. Et sur sa route surgit tout d'un coup un certain Ahia. Il prend à part Jéroboam, il le met sur le côté du chemin, ils sont juste tous les deux. Et voilà que devant Jéroboam, Ahia se met à déchirer son blouson en 12 morceaux. Puis il tend les 12 morceaux et il dit à Jéroboam, vas-y, compte-en 10 et prends-les avec toi. Vous avez remarqué, on ne sait pas qui est Ahia. On n'a pas d'informations sur lui en tant que personne, mais peu importe. Parce que avant le messager, c'est le message qui compte. C'est la parole de Dieu qui a l'honneur. La première idée ici, c'est que la parole survient soudainement. Parfois quand on ne l'attend pas. Certainement, Salomon ne s'attendait pas à tout d'un coup entendre ce rappel de Dieu parce qu'il était déjà parti un peu loin dans sa folie. Jéroboam certainement ne s'attendait pas à tomber sur Ahia alors qu'il était en route. La parole de Dieu survient soudainement, parfois quand on ne l'attend pas. Mais attention, soyons attentifs alors, justement. Quand Dieu parle, il ne parle pas pour ne rien dire. Les choses qu'il révèle à Jéroboam sont assez importantes. La deuxième chose, c'est que la parole de Dieu est claire. Vous voyez, Ahia fait ce signe, et donc il déchire son manteau en 12 parts, il en demande à Jéroboam d'en prendre 10. Et si Ahia n'avait rien expliqué, j'imagine bien Jéroboam en train de se gratter la tête. Qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça? Ça vous est sans doute arrivé, en tout cas ça a été mon cas, quand j'étais plus jeune, pas d'excuses, mais voilà, c'était comme ça, où j'ai demandé à Dieu un signe, parce que j'étais face à un choix qui m'était difficile à résoudre. Et j'ai vu deux oiseaux s'envoler, ça concernait une fille que j'avais en tête, si vous voulez tout savoir. Mais je ne me suis pas trouvé mieux après, je ne savais pas si c'était un signe ou pas, je ne savais pas qu'est-ce que ça signifiait. Est-ce que c'était un oui, parce qu'il y avait deux oiseaux, mais en même temps, ils s'envolaient à tire-d'aile. Est-ce que ça voulait dire « fuis, fuis » ? La parole de Dieu, elle est claire toujours. Et quand Dieu même utilise des éléments dans nos circonstances pour attirer notre attention, il y a toujours une parole qui vient confirmer et expliquer ce que Dieu est en train de faire. Là aussi, Ahia découpe la tunique, il donne 10 morceaux et il explique. Dieu donne 10 tribus à Jéroboam, l'autorité sur 10 tribus en Israël. Mais il va laisser une descendance à David, comme le contrat d'alliance le prévoyait. Une pure grâce de Dieu, vous rappelez ce qu'on a lu tout à l'heure. Et je voudrais vous attirer votre attention. Une personne qui viendrait en parlant de signes tout le temps, ce n'est rien. Tout peut être signe dans un sens. Et aujourd'hui, nous avons la parole prophétique qui nous permet de comprendre et d'avancer dans la situation de la vie. Parce que cette parole nous a été révélée. Et donc nous devons évaluer les choses à la lumière de la parole de Dieu, entièrement suffisante et claire, qui nous a été donnée. Tu as un rêve, une vision, quelqu'un t'a dit qu'il avait reçu quelque chose de la part de Dieu pour toi. Peut-être, mais évalue bien tout cela à la lumière de la parole infaillible de Dieu. Dieu ne parle pas en mime, Dieu parle en parole. Dieu conduit l'histoire, il le fait par sa parole est certaine. Nous pouvons mettre toute notre confiance dans ce que Dieu a dit. Et pour cette dernière partie, je vous invite à regarder un petit peu plus quelle confiance nous pouvons avoir. Une confiance dans une espérance affirmée par cette même parole. Voyez, Salomon n'a pas tenu jusqu'au bout. C'est le triste constat de 1 Roi chapitre 11. Alors que les choses étaient tellement bien parties jusqu'au chapitre 10. C'est triste. On doit être triste de lire ce chapitre 11. Mais on doit aussi regarder Jéroboam. Jéroboam n'a pas tenu exactement compte de la parole de Dieu. Voyez la promesse qui lui est faite. Achaïa donc explique cela. Verset 35. « Je retirerai le royaume à son fils et je t'en donnerai 10 tribus, Jéroboam. » Il est en train de parler de ce qu'il va faire à Salomon. Et verset 36. « Je laisserai une tribu à son fils afin que mon serviteur David ait toujours un successeur devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y établir mon nom. Je vais te prendre pour que tu règnes, toi Jéroboam, sur tout le territoire que tu voudras et tu seras roi d'Israël. » Verset 38. « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi. Je te construirai une maison stable comme j'en ai construite une à David et je te donnerai Israël. » Voyez, Jéroboam est presque au bénéfice de la même promesse. Il n'est pas lui fils de David, mais s'il se conduit comme un digne fils de David, s'il a la même attitude que le serviteur David, alors il aura part à la même bénédiction qui a été promise à David. Dieu dit « Je serai avec toi, je te construirai une maison stable. » Mais Jéroboam n'a pas tenu exactement compte de la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il donnerait le royaume à Jéroboam au moment de l'accession au trône du fils de Salomon, et non pas du temps de Salomon. Et on comprend au verset 40 que Jéroboam, trop pressé, pas attentif à la parole de Dieu, a tenté de renverser Salomon du temps de son vivant. Il n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. C'est déjà un signe que dans la suite, il risque probablement de ne pas partir dans la bonne direction. On connaît ça. L'orgueil, la cupidité, les désirs sont des moteurs puissants d'action. Et des fois, on a entendu bien clairement la parole de Dieu, mais quelque chose en nous qu'il faut maîtriser nous attire loin de Dieu. Alors, ni Salomon ne tient jusqu'au bout, ni Jéroboam n'ont accompli la volonté de Dieu. Et si on lit le reste de 1 Roi, on va regarder toujours qu'il y a une évaluation. La plupart des rois du royaume du Nord, qui dans la suite prend le nom d'Israël et qui a pour capitale Samarie, sont évalués à la lumière de Jéroboam, fils de Nébat, qui s'est détourné lui aussi de Dieu. Et tous ces rois sont évalués parce qu'ils font la même bêtise que Jéroboam dans la suite. Les rois du sud, le royaume qui prendra ensuite le nom de Juda, avec pour capitale Jérusalem, sont évalués à la lumière de David. Est-ce qu'ils ont fait ou non comme David? Est-ce qu'ils sont restés ou non attachés au Seigneur comme David l'a été? Et on lit dans la suite de l'histoire que Dieu décide d'affliger le royaume du sud, Juda, et du nord. Mais par égard pour son alliance, pour sa promesse à David, Dieu tient parole. De la tribu de Juda, de la descendance de David, Dieu a suscité Jésus, le Christ, le roi choisi par Dieu. C'est lui, le digne fils de David. Dieu lui-même a pris en charge, dans la suite de l'histoire, l'accomplissement de sa promesse. Quand aucun homme n'avait été capable de tenir l'accord, Dieu, lui, a tenu le sien et il a pourvu un homme, selon son cœur, un roi capable d'obéir en tout à la volonté de Dieu et de conduire alors tout un royaume à sa suite. Cette personne, cet homme, c'est Dieu le Fils incarné, Jésus le Christ. Voyez au verset 39. Pour un temps, Dieu a choisi d'affliger Israël. Pour un temps, Dieu a choisi d'humilier la descendance de David, mais il dit, ce ne sera pas définitivement. Et nous en avons la réalité. Quand nous regardons à Jésus, Jésus est venu sauver son peuple de ses péchés, de son cœur parti à la dérive. Il est venu le ramener vers Dieu et le garder, scellé par le Saint-Esprit, pour toujours, dans la bonne main de Dieu. Ça nous concerne, vous, moi, si vous avez mis votre confiance en Jésus. Ça vous concerne, vous, moi, si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus. Aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Dieu te semble-t-il en train de t'affliger ? Est-ce qu'il fait ça parce qu'il t'aime et parce qu'il veut que tu reviennes à lui? Est-ce que Dieu est capable d'utiliser des circonstances même adverses pour que tu restes attaché à lui? Est-ce que ça pourrait être un effet de sa bonté, d'un bon Père céleste qui prend soin de personnes à qui il tient? La caractéristique d'un mauvais père, c'est de laisser ses enfants faire n'importe quoi sans s'en soucier. Dieu, dans toutes circonstances, veut faire en sorte que nous soyons attachés à lui. Et s'il afflige, prend courage dans cette parole, s'il humilie pendant un temps, sache que ce n'est pas définitif, ce n'est pas pour toujours. En Jésus, nous avons une espérance affirmée qui nous permet d'avancer avec confiance. Ce n'est pas pour toujours, le roi a déjà établi sur son royaume et bientôt son règne sera évident pour tous. Imaginez que si Dieu a eu égard pour la Jérusalem terrestre 1000 ans avant Jésus-Christ, si Dieu a eu égard pour David, qui, nous le savons, n'était pas non plus au-dessus de tout reproche, bien que son cœur était attaché au Seigneur, à plus forte raison aspire-t-il maintenant à établir la nouvelle Jérusalem, la nouvelle création, un lieu où il demeure et nous serons dans sa présence. Un lieu où il a choisi de faire demeurer son nom. Si Dieu a eu compassion de David et tout ce qu'il fait, c'est en rapport avec sa promesse vis-à-vis de David, à combien plus forte raison va-t-il tenir maintenant les promesses qu'il nous a faites dans le Fils de David, en Jésus-Christ? Alors, je conclus avec ça. Ne perds pas courage. Reste dans tes dispositions, celles du début, ton premier amour. Examine ton cœur devant Dieu. Fais attention aux racines en particulier. Si tu remarques quelque chose de bizarre, reviens, souviens-toi, reviens à Dieu. Dieu est au contrôle de la situation. Même quand ça semble désespéré ou difficile, rien ne vient du hasard. Tout est dans les mains de Dieu. Il mène les choses dans son sens. Et si tu veux savoir dans quel sens va Dieu, il y a une parole claire qui nous a été révélée. C'est elle aussi qui est capable de garder nos cœurs de la dérive et nous ramener à Dieu, de nous permettre de le connaître, de lui faire toujours plus confiance, de voir la beauté de ses promesses au lieu de l'éclat de ce qui nous attire. La parole de Dieu est certaine et claire. Ne cours pas après les signes. Ne fais pas comme Jéroboam a laissé une partie des paroles de côté pour tes intérêts immédiat. Et rappelle-toi, tu peux avoir confiance. Il y a une espérance affirmée partout dans l'Écriture. Dieu dit « J'affligerai ». Et le jugement, nous dit le Nouveau Testament, commence par la maison de Dieu. Mais ce ne sera pas pour toujours. En Jésus, nous avons un espoir ravivé. Il a accompli l'alliance davidique. Nous avons un roi aimé de Dieu, choisi par Dieu, fidèle devant Dieu, qui règne pour toujours. Et ce toujours-là, ce n'est pas parce qu'il a eu une descendance qui s'est succédée avec plusieurs qui sont restés fidèles, mais lui n'est plus mort. Il était mort sur la croix, mais le troisième jour, il est ressuscité. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le roi que nous avons est roi pour toujours. Pas de risque, donc, de voir un autre roi surgir et faire capoter le plan de Dieu. Pas de risque de voir un autre roi s'écarter de la voie. Jérusalem sera alors un lieu où Dieu se trouve, parce que nous avons le Fils de David qui nous conduit. Nous aurons un pays. Dieu, en attendant, afflige encore parfois, mais il promet, ce ne sera pas pour toujours. Est-ce que tu sauras t'attacher à ce rayon d'espérance ? C'est ma prière. Je vous invite à prier tout de suite, en fait. Seigneur, garde nos cœurs, s'il te plaît, attachés à toi. Rends-nous attentifs, vigilants. Aide-nous à nous encourager les uns les autres, Seigneur, dans ta parole claire et donnée de façon, une fois pour toutes, définitive. Merci Seigneur encore pour ta grâce. Tu ne te lasses pas de faire le bien, tu tiens tes promesses. Et quand nous ne sommes pas à la hauteur, toi tu restes à la hauteur. Pardonne-nous Seigneur les fois où nous nous sommes éloignés de toi et ramène-nous sans cesse à toi. Du début de notre vie jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle, nous voulons être tes serviteurs, tes servantes. Seigneur, accorde-nous cette grâce-là par ton Fils Jésus. Le Christ. Amen.